la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Voici qu'arrive le 8e roman de Sébastien Berlandis, publié aux éditions Actes Sud dans la très jolie collection « Un endroit où aller ». Il s'intitule « 24 fois l'Amérique ». Il est en librairie le 4 mars prochain. En voici le début. En début de soir, 19 degrés à peine, j'arrive sans trouble ni remous à l'aéroport Kennedy et le ciel est gris et le crachin léger. Je patiente longtemps au poste de douane avant de prendre le train aérien. Il marque une pause à Howard Beach et je peux imaginer, à travers les vitres embuées, l'océan au loin dans la nuit. La ligne A me conduit à North Strand Avenue, dans un quartier qui m'est familier, au cœur de Brooklyn, un Brooklyn resté populaire. Les immeubles, en briques rouges, les allées peu éclairées, bordées d'arbres et de pavillons, pour la plupart un peu cassés, me rappellent Marianne et Manchester, la ville du premier voyage. Derrière les hauts grillages, les vieilles voitures dorment sous les bâches grises. Les familles traînent sur le perron. Les plus jeunes tournent en rond dans la cour de l'école pour filles. Dans l'appartement loué au double rideau tiré, les pièces paraissent somnoler dans la pénombre depuis des décennies. Je m'allonge sur le sommier posé à même le sol. J'écoute dans un demi-sommeil la rumeur du boulevard, le cri des enfants, les sirènes agressives. Bientôt, la nuit dissipera les bruits et les mouvements, et je n'entendrai plus que le vent dans le lierre des immeubles d'en face. Le premier matin, je me dirige vers le seul café du quartier, à l'angle de North Strand Avenue et de Fulton Street. Au menu, croissant français, double expresso. Je regarde, à côté de moi, et à la dérobée, un couple plongé dans la lecture. La lumière surexpose le visage de la jeune femme. Je me surprends à oser un « May I take a picture ?» et depuis l'extérieur, dans les reflets de la baie vitrée, je la photographie à deux reprises. Un été, nous avions logé pendant 4 jours, dans ce même périmètre, au 279 Hancock Street, chambre numéro 5, au 2e étage. Chambre spacieuse avec petite cuisine, cheminée en marbre et couvre-lit vert pâle. La largeur, la mollesse du matelas nous semblait inédite. Le ventilateur tournait à plein régime, calmait la touffeur de la pièce. Après chaque journée de marche, la fatigue nous prenait. Les nuits new-yorkaises se dépliaient sans nous. Nous lisions quelques pages, nous faisions l'amour au ralenti, nous nous endormions vite. Le sommeil s'avérait paisible. Marianne découvrait pour la première fois les rues de New York, les fast-foods indiens innombrables et ouverts jour et nuit. Ici, on les appelle les délis. Le hip-hop et les basses puissantes résonnaient à l'intérieur des pavillons et des petits commerces. Nous marchions au hasard vers Red Hook, une enclave au bord de l'eau, un ancien port de pêche à l'écart des guides et des stations de métro, dans le nord-ouest de Brooklyn. Nous marchions dans les allées larges, ombrées, calme, déserte, à l'exception d'un stand de vêtements et de babioles en tout genre. Nous avions fouillé, mélangé les centaines de diapositives Kodachrome, nous exposions à la lumière des images de pavillons, des portraits de famille des années 50. Nous pensions à des films de cette époque, A Time to Love and A Time to Die, Written on the Wind. Nous aimions énoncer leurs titres dans leur version originale. Le pont métallique et rouillé de l'expressway était aussi cinématographique, et le bruit nous désorientait. Dans Court Street, le silence revenait, et nous flânions à nouveau à l'intérieur d'une échoppe où nous avions acheté de vieilles cartes routières de Pennsylvanie, des photographies de pin-up qui posaient sur la jetée en bois de Coney Island. La pause déjeuner s'allongeait chez Abby Lane, burger bien trop copieux, verre d'eau, cigarette que nous partagions sur le trottoir, à distance de notre table. La tenue de la serveuse surprenait. Elle baladait son corps libre, et aucun regard déplacé ne venait la déranger. En début d'après-midi, je traverse le parc récréatif de Red Hook. Sur la pelouse synthétique, un match de football oppose deux équipes aux joueurs vieillissants. Les food trucks, les camions gigantesques, bordent le stade. Les familles latino-américaines étendent les nappes, sortent le pique-nique, les barbecues. Et dans les odeurs de friture, les corps gigantesques poussent les enceintes à leur maximum. Au bord de l'eau, près de Port Authority, à l'ombre des bâtisses de béton noir qui ressemblent à des navires échoués et des armatures elles aussi rongées par la rouille, les herbes hautes envahissent les terrains de baseball et de football américain. Une fête d'anniversaire se prépare. Les ballons colorés flottent dans le ciel. Je photographie la scène. Marianne aurait choisi de fixer les masses sombres des vieux entrepôts. Les panaches de fumée blanche surmontent les tours de refroidissement. Les écureuils s'approchent de moi. Au cœur de Red Hook, dans un décor aux allures plus européennes, j'ouvre les portes des disquaires. Les citronnades de Van Brunt Street rafraîchissent. J'emprunte l'ancienne voie du tramway, celle qui descend jusqu'à l'océan. Les immeubles populaires, la musique en permanence, la jeunesse, et les parcs encore, et dans chaque parc, des réunions de famille, des fêtes. Je pourrais entendre Marianne me dire « Tu devrais filmer ça ». La chaleur, les jambes lourdes ralentissent le retour à l'appartement. Au café du matin, je bois sans hâte un jus d'hibiscus et de gingembre. La nuit, et le visage de Marianne, ses yeux noirs ébahis, son air parfois absent, l'émotion qu'il y avait à la regarder, accompagne mes derniers mètres. Le deuxième jour, je vais d'abord au nord, vers le fleuve, vers l'East River. Et j'ai en mémoire nos marches infinies dans un espace alors en friche, où circulait une énergie sauvage. À la sortie du métro, au niveau de Bedford Avenue, je ne reconnais rien. 10 années plus tard, le désordre a disparu, remplacé par des bâtiments, des commerces, des lieux de travail caractéristiques de toute grande ville occidentale. Voilà un Brooklyn blanc et bourgeois qui peine à m'exalter. Je m'attarde, le temps d'acheter 2 carnets d'écriture et Albanian Diary, un livre du poète Ron Patchett. Puis je file en direction de l'extrême sud de Brooklyn, impatient de revoir la plage, l'océan, Coney Island. Le métro circule à l'air libre et dans un lent travelling longe des arrondissements aux maisons basses, des rues en chantier, des poteaux électriques tordus. Les chiens et les enfants s'approchent des voies. Nous aimions tous deux l'effervescence de Coney Island, le bruit continu et infernal du quartier ukrainien de Little Odessa, les cantines aux menus illisibles, la nourriture malgré sa lourdeur, les rues déjà arpentées dans les films chéris We Own the Night, The Yard ou encore Two Lovers, pour ne citer que nos préférés. Nous faisions provision de fruits, achetions une serviette de bain dans une des boutiques placées sous les rails du métro aérien. Et nous gagnions la promenade en bois, la plage et ses kilomètres de sable, les baraques à frites, les enseignes célèbres. Rien n'avait changé, ou si peu, depuis les années 70. Nous prenions un café chez Nathan's, déambulions dans le vieux Luna Park, photographions le cyclone, un roller coaster presque centenaire. Nous rêvions devant la grande roue, déambulions à l'intérieur d'un mythe. Un mythe bien vivant, malgré les manèges à l'arrêt ou en réparation. Un mythe tonitruant lorsque des musiciens, installés des enceintes plus grandes que nous, testaient, en rappant leur micro d'or et d'argent, préparaient la fête du soir. Au bout de la promenade, mes pas font une pause dans un parc rempli d'ombre, face à 2 grands immeubles aux fenêtres minuscules et une résidence pour personnes âgées. Les enfants courent dans les jets d'eau, les vieux dorment sur les bancs, les adolescents forment des groupes, entrent et sortent des immeubles, ça va, ça vient, je fais partie du paysage et demeure avec eux à boire des litres d'eau. Je pose ma serviette au plus près des vagues entre 2 digues de pierre. Il est temps de goûter l'eau froide et le vent agréable. C'est une première fois, la mer cet été, une première fois l'océan depuis je ne sais combien d'années. Et mon corps, dans les vagues hautes, retrouve ses marques. Je me souviens que Marianne ne m'avait pas accompagné sur la partie de la plage où la baignade était autorisée. Elle avait gardé sa robe, lisait avec joie « Demande à la poussière ». Elle n'était pas loin d'avoir froid. Ma lecture du moment me transporte en Afrique du Nord. Étrangement, les descriptions du ciel, de la mer, de l'été algérien s'accordent avec le paysage océanique qui s'ouvre sous mes yeux. je pourrais, pendant tout le mois, prendre racine là, me satisfaire de ces trois espaces, Norristown Avenue, Red Hook, Coney Island Beach. La fin du jour approchait. Nous marchions en sens inverse sur la promenade en bois. La lumière rasait la chevelure de Marianne. Je la photographiais de dos avec, en arrière-plan, dans le flou, les façades de Coney Island. La fête annoncée plus tôt dans l'après-midi rassemblait une centaine de personnes de tous horizons, et la joie, les sourires, les mélanges. Le fracas des basses soulevait le cœur, et nous sortions nos appareils. Même si nous nous perdions de vue, j'apercevais Marianne, sa surprise, et sa joie éclatante. Je photographiais de façon compulsive un homme d'une cinquantaine d'années. Il esquissait quelques mouvements de voguing, des mouvements angulaires, rigides, nés dans les années 70, s'inspirant des poses des mannequins. Son charisme, sa tenue, la sécheresse de son corps, ses gestes, aimantaient. Il ne pouvait l'ignorer, alors il en rajoutait, et s'approchait de moi, intrigué par le relais flex, peu discret. Nous échangions quelques mots, il connaissait la photographie, il posait à nouveau. Pris par l'excitation et la foule, je ne parvenais pas à cadrer, à contrôler mes réglages, à maîtriser le contre-jour. Les genoux à terre, j'insérais avec difficulté une nouvelle pellicule, et les jambes des danseurs me frôlaient ou me percutaient. Marianne me rejoignait. Whitey, le danseur magnétique, crayonnait dans mon carnet son nom et son adresse. Il glissait à l'oreille de Marianne « It's Coney Island, babe ». Éclat de rire, embrassade à l'américaine, je promettais d'envoyer les images. « Comment vaincre davantage notre timidité ?» me demandait Marianne. Elle souhaitait échanger avec d'autres, converser par exemple avec ces deux femmes attablées à côté de nous chez Nathan's en début de nuit, ces deux femmes à l'appétit spectaculaire quand nous ne parvenions pas, une nouvelle fois, à terminer nos sandwichs aux crevettes. Comme à l'aller, le spectacle défilait derrière les vitres du métro aérien, et comme à l'aller, il nous captivait, serrés l'un contre l'autre, dans nos serviettes de bain encore humides, frigorifiées par une climatisation trop forte. Nous nous demandions comment la nuit se poursuivait sur la promenade de Coney Island, alors que les couples, la jeunesse, les filles et les garçons dévêtus continuaient d'affluer. Lorsque je traverse les quartiers de Chelsea et de Greenwich Village, je peine à imaginer la vie de bohème, la fièvre, le danger des années lointaines. Les salons de thé pullulent, le bruit oppresse, la foule, les touristes aussi. Je piétine dans le hall de South Ferry, j'hésite à prendre le bateau pour Staten Island. 10 ans auparavant, à la fin d'un jour d'hiver, les travailleurs quittaient à la hâte l'île de Manhattan. Nous étions sur le pont supérieur, je tenais le trépied dans le vent froid et Marianne filmait la traversée, le ciel noirci, le croisement des navires. Les rafales de neige ralentissaient l'activité du port. Les ferries cassaient les plaques de glace dont la surface grandissait chaque jour. Les flocons tachaient les murs de verre des buildings. Les tours faisaient penser à des blocs de marbre pendant que le silence gagnait les intérieurs et les couloirs presque vides du bateau. Il y avait, je crois, deux couples étrangers et leurs enfants, des hommes costumés, trois femmes seules, Marianne et moi. La buée collait aux vitres, le gris envahissait tout. Les échafaudages enserraient la majeure partie des bâtiments d'Ellis Island, et les flâneurs se faisaient rares. Les drapeaux américains semblaient râpés par l'hiver, et quelques enfants regardaient le va-et-vient des bateaux. Nous avions marché dans les allées d'Ellis Island. Même si, dans le ciel, un point jaune perçait la couche de gris, je me souviens que le gel transformait chaque geste en effort. Marianne avait relevé son col de fourrure, rentré la tête dans les épaules, elle s'était éloignée au bout de la jetée. J'avais attendu pour déclencher, et son visage, beau et calme, s'était retourné pleinement. Pendant le trajet du retour, nous n'avions pas quitté l'intérieur du ferry, et nous nous laissions bercer par le roulement des vagues, par la lenteur et le tangage du navire, et l'horizon tremblait. Comme tremble aujourd'hui, dans les brumes de chaleur, Ellis Island. Malgré mon attrait pour l'histoire du lieu, malgré le vent agréable, le piétinement, la foule, l'attente me font renoncer. Je vais à l'est du côté de l'East Village et de son frère le Lower East Side, qui réveillent tous deux des images de musique électrique et abrasive. En dépit de l'embourgeoisement et des échoppes touristiques qui laissent, là aussi, à l'état de rêve, les salles de concert vénérées, quelque chose demeure du temps sauvage. Est-ce la nature des immeubles, leurs façades lézardées, la présence des châteaux d'eau, l'énergie qui grimpe d'un cran lorsque le soir descend et que surgit une jeunesse un peu débraillée? Est-ce la redécouverte sur la 2e avenue de l'Anthology Film Archives, cette cinémathèque alternative dédiée aux films expérimentaux et fondée dans les années 70 par le très aimé Jonas Mekas? Nous sommes le 18 juillet, la bâtisse est fermée. Restent sur les murs les affiches à moitié déchirées et soulevées par le vent des films du réalisateur Alan Clark. Sur la 2e avenue, nous avions choisi le café nomade pour boire, quelle idée, m'avait dit Marianne, une sangria, puis une bière Sierra Nevada, et Marianne de noter, à plusieurs reprises, la beauté du serveur. Nous allions de rue en rue, ignorions la St. Mark's Place et son soufre disparu, les cafés minuscules et privés de terrasses, les glaciers hors de prix. Le mystère et le romanesque ressurgissaient dans les allées et sur les terrains de jeu du Tompkins Square Park, autrefois lieu d'émeutes et de contestations politiques. Lorsque la nuit éloignait les familles et les vieilles personnes, le parc Tompkins, magnifié par des hêtres centenaires, redevenait l'espace de la jeunesse, le théâtre des skateurs. Ils semblaient sortis d'un film, savaient que nous les regardions exécuter leurs figures sous une lumière faible qui dramatisait et rendait gracieux chacun de leurs gestes. Alors ils crânaient, prenaient la pose devant des jeunes filles maigres que Mary Ellen Mark aurait pu photographier. Dans nos appareils, la pellicule n'avait pas la sensibilité espérée pour capturer à notre tour la cinégénie des uns et des autres, enregistrer les vagabondages, les rendez-vous amoureux. Aux abords du parc, un glacier ambulant propose des glaces surdimensionnées. Deux boules de pistache et de menthe accompagnent le trajet sur la 4e rue en direction de Washington Square Park. Là, une autre jeunesse moins cinématographique fait cercle autour d'un bassin central, profite de la fraîcheur des jets d'eau pendant que je m'engouffre dans les souterrains du métro. Dans l'appartement de North Strand Avenue, ma tête tourne aussi fort et aussi vite que les pales du ventilateur. Le calme reprend ses droits lorsque la décision de revoir Marianne s'impose avec netteté. Rien ne me retient à New York, rien ne me presse non plus. Je veux prendre le temps de traverser les états qui nous séparent, arpenter des espaces inédits, raviver la mémoire de certains lieux. Les dernières lettres de Marianne datent d'il y a 3 ans. Sur chacune d'elles, Marianne avait l'habitude de dessiner un paysage de rives et de dunes, celle de l'Indiana au bord du lac Michigan.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. crucifix. As we went kneeling through the dark, oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside,